Alors, chers amis des cahiers de l'histoire, eh bien, pour cette nouvelle session, je vais vous parler de la controverse de Valladolid. Valladolid, qui est une ville en Espagne. Alors, la controverse de Valladolid est un débat qui opposa essentiellement le dominicain Bartolomé de las Casas et le théologien Juan Rines de Sepúlveda, en deux séances d'un mois chacune. Donc, ces deux réunions se sont déroulées l'une en 1550 et l'autre l'année suivante, au collège San Gregorio de Valladolid en Espagne, mais principalement par échange épistolaire également. Alors, ce débat réunissait des théologiens, des juristes et des administrateurs du royaume afin que, selon le souhait de Charles Quint, il traite et parle de la manière dont devraient se faire les conquêtes dans le Nouveau Monde, suspendu par lui pour qu'elles se fassent avec justice et en toute sécurité de conscience. Alors la question était de savoir si les Espagnols pouvaient coloniser le Nouveau Monde et dominer les indigènes, les Amérindiens, par droit de conquête, avec la justification morale pouvant permettre de mettre fin à des modes de vie observés dans les civilisations précolombiennes, notamment la pratique institutionnelle du sacrifice humain, ou bien si les peuples amérindiens étaient légitimes malgré de tels éléments et si seul le bon exemple devait être promu au moyen d'une colonisation-émigration. Ce débat politique et religieux, organisé par Charles Quint, eut lieu sous le pontificat du pape Jules III. Et il fit cesser temporairement la colonisation de l'Amérique par la monarchie espagnole. 24 ans avant la controverse de Valladolid, en 1526, Charles Quint avait déjà pris un décret interdisant l'esclavage des Indiens sur tout le territoire de son empire. Et en 1542, l'empereur avait promulgué les lois nouvelles qui proclamaient la liberté naturelle des Indiens, la liberté du travail, la liberté de résidence et la libre propriété des biens, punissant ceux qui seront violents ou agressifs envers les Indiens. Et 13 ans avant la controverse de Valladolid, dans la bulle pontificale Sublimis Deus et dans la lettre Veritas Ipsa, le pape Paul III avait déjà condamné officiellement, au nom de l'Église catholique, l'esclavage des Indiens. Et de tous les autres peuples qui peuvent être plus tard découverts par les chrétiens. Sublimis Deus. Et dans ces deux documents, Paul III affirme que les Indiens et les autres peuples sont de véritables êtres humains, veritas ipsa, que leur liberté et leur propriété doivent être respectées, même s'ils demeurent en dehors de la loi et de la foi de Jésus-Christ. Et que ces derniers doivent être invités à ladite foi du Christ par la prédication de la parole de Dieu et par l'exemple d'une vie vertueuse. Lors de ce procès, on officialise que les Amérindiens ont un statut égal à celui des Blancs. Et cette décision ne s'appliquait pas aux Noirs d'Afrique dont l'esclavage n'était pas du tout contesté. Et c'est d'ailleurs en raison de la controverse de Valladolid que les Européens vont généraliser la pratique de la traite des Noirs pour alimenter le Nouveau Monde en esclaves. Alors, il faut voir maintenant le contexte. Dès la découverte des populations précolombiennes en 1492 par Christophe Colomb, il écrit d'ailleurs à leur sujet. Ils nous apportèrent des ballots de coton, des javelots et bien d'autres choses qu'ils échangèrent contre des perles de verre et des grelots. Ils échangèrent de bon cœur tout ce qu'ils possédaient. Ils étaient bien bâtis, avec des corps harmonieux et des visages gracieux. Ils ne portent pas d'armes et ne les connaissent d'ailleurs pas, car lorsque je leur ai montré une épée, eh bien ils la prirent par la lame et se coupèrent, par ignorance. Ils ne connaissent pas le fer non plus. Leurs javelots sont faits de roseaux, ils feraient de bons serviteurs. Avec 50 hommes, on pourrait les asservir tous et leur faire tout ce que l'on veut. » Ça, ce sont les paroles de Christophe Colomb. Alors au début du XVIe siècle, les Espagnols conquirent des territoires, le plus souvent avec l'aide des peuples indigènes, hostiles ou en révolte contre le peuple dominant. Alors par exemple, Cortés au Mexique ou Pizarro au Pérou, qui les a réduits en esclavage et prélève sur eux les victimes des sacrifices humains. Cependant, les conquistadors s'approprient des terres des indigènes et les populations autochtones sont contraintes aux travaux forcés et organisées dans le système de l'encomienda dont les bénéficiaires, les encomederos, que l'on peut traduire en français par les curateurs, peuvent percevoir un tribut en métaux précieux, en nature ou bien tout simplement en corvée. En échange, eh bien, ils doivent protection et instruction religieuse à ces populations, donc l'évangélisation des indigènes souhaitée par le pouvoir royal. Et malgré tout, considérés comme libres, ils sont tenus de ne pas les maltraiter ni de les réduire en esclavage. S'ils les font travailler, ils leur doivent un salaire, ainsi que le prescrit une cédule royale de 1503. Cependant, les encomederos contournent les lois. Je parle donc des curateurs. Le système d'encomienda s'étend à l'ensemble du continent sud-américain au fur et à mesure que les conquistadores progressent. Alors, dès le début du XVIe siècle, eh bien, des voix commencent à se faire entendre pour condamner les brutalités commises sur les Indiens. Par exemple, Antonio de Montesinos dénonce les injustices dont il a été témoin en annonçant « La voix qui crie dans le désert de cette île, c'est moi, et je vous dis que vous êtes tous en état de péché mortel à cause de votre cruauté envers une race innocente. » De la même façon, Antonio Montesinos, en 1511, n'hésite pas à refuser les sacrements aux encomenderos indignes et à les menacer d'excommunication. Il est rappelé en Espagne, mais obtient de la couronne la promulgation des lois de Burgos en 1512, qui impose de meilleures conditions de travail pour les Indiens. Mais ces lois ne sont pas mieux respectées que les précédentes. Alors Bartolomé de las Casas, qui est un ancien encomenderos, s'engage contre ce système et se fait connaître peu à peu. Il est nommé défenseur des Indiens en 1516 par le cardinal Cisneros. 4 ans plus tard, Charles Quint lui concède Cumania, sur le territoire vénézuélien pour mettre en pratique ses théories de colonisation pacifique par des paysans et des missionnaires. Mais pendant une absence de Las Casas, les Indiens en profitent pour tuer plusieurs colons. Alors, se sentant coupable, Las Casas se retire pendant 16 années et devient dominicain. Entre-temps, le pape Paul III, par les bulles Veritas Ipsa et Sublimis Deus, condamnent l'esclavage des Indiens et affirment leurs droits en tant qu'êtres humains à la liberté et aussi à la propriété. Alors, tiraillés entre les groupes d'influence défendant des intérêts économiques et ceux qui font connaître les exactions de colons, eh bien Charles Quint, après avoir interdit l'esclavage, promulgue les Leyes Nuevas en novembre 1542 qui mettent les Indiens sous la protection de la couronne d'Espagne et exigent des vice-rois du Pérou et des tribunaux de Lima et de Guatemala de sévir contre les abus des encomenderos et de ne plus attribuer de nouvelles encomiendas. Ces lois provoquent un soulèvement et la mort du vice-roi du Pérou. Alors, Juan Jiménez de Sepúlveda, se fondant sur Aristote, écrit des causes d'une juste guerre contre les Indiens. Alors, traité où il défend la conquête institutionnelle comme une nécessité et un devoir, car l'Espagne avait un devoir moral à diriger par la force si nécessaire des populations locales qu'il voyait immatures, dépourvues de sens moral, au vu des observations rapportées par les voyageurs sur leurs mœurs. Las Casas réplique en publiant un traité qui s'appelle « 30 proposiciones muy judicitas », c'est-à-dire 30 propositions juridiques, et Charles Quint suspend la colonisation et ordonne le débat de Valladolid sur la légitimité de la conquête institutionnelle. Alors nous allons passer au débat. L'humanité des Indiens, l'existence de leur âme, ne constitue pas l'objet du débat. Le pape Paul III l'avait affirmé pour tous les peuples connus ou qui viendraient à être découverts, sans quoi Sepúlveda n'aurait jamais parlé du devoir de les évangéliser, ni ne se serait étendu sur leur péché d'idolâtrie. Le débat regroupe un collège de théologiens, juristes et administrateurs. 7 juges, membres du Conseil des Indes, 2 inquisiteurs du Conseil royal suprême, 1 administrateur du Conseil des grands ordres chevaleresques, 3 théologiens dominicains, 1 théologien franciscain et 1 évêque. Cependant, tout ce monde est dominé par les figures de Las Casas et Sepúlveda. Las Casas, comme Sepúlveda, s'accorde sur le devoir de conversion des Indiens qui incombe aux Espagnols, mais qui diffère sur le moyen d'y parvenir. Colonisation pacifique et vie exemplaire pour le premier, c'est-à-dire Las Casas, et colonisation institutionnelle où la force est légitimée par le réalisme et la nature même des civilisations précolombiennes pour le second. Alors, Las Casas est favorable à l'application de la philosophie de saint Thomas d'Aquin, selon laquelle une société est une donnée de la nature. Toutes les sociétés sont d'égale dignité. Une société de païens n'est pas moins légitime qu'une société chrétienne. On n'a pas non plus le droit de convertir de force. La propagation de la foi doit se faire de manière évangélique, par l'exemple. La thèse de Sepúlveda s'appuie sur des arguments de raison et de droit naturel ainsi que sur des arguments théologiques. Juan Jiménez de Sepúlveda considère les sacrifices humains chez les Aztèques massifs et réguliers, l'anthropophagie, l'inceste royal pratiqué dans les sociétés précolombiennes et utilise des arguments aristotéliens et humaniste pour proposer 4 justes titres qui justifient la conquête. Alors le premier, c'est l'intérêt des Indiens exige qu'ils soient mis sous tutelle par les Espagnols puisque lorsqu'ils se gouvernent eux-mêmes, ils violent les règles de la morale naturelle. 2. La nécessité d'empêcher, même par la force, le cannibalisme et d'autres conduites antinaturelles que les Indiens pratiquent. 3. L'obligation de sauver les futures victimes des sacrifices humains. Et 4. L'ordre d'évangéliser que le Christ a donné aux apôtres et le pape au roi catholique, pape qui jouit de l'autorité universelle. Alors Las Casas réplique en démontrant 1. La rationalité des indigènes au travers de leur civilisation, par exemple l'architecture des Aztèques. 2. Qu'ils ne trouvent pas dans les coutumes des Indiens de plus grande cruauté que celle qui pouvait se trouver dans les civilisations du Vieux Monde. Par exemple, la civilisation romaine avait organisé des combats de gladiateurs, ou même dans le passé de l'Espagne. 3. L'évangélisation et le fait de sauver les victimes des sacrifices humains n'est pas tant un devoir des Espagnols qu'un droit des Indiens. Alors les deux parties au débat se proclament vainqueurs. Alors que se passe-t-il après le débat? Alors sur le plan territorial, le débat des justes titres ne répond pas seulement aux scrupules de conscience des rois, alertés par des ecclésiastiques bien intentionnés, mais aussi à la nécessité de justifier l'expansion espagnole devant les autres États d'Europe. Après la controverse de Valladolid, on observe un ralentissement des conquêtes, mais qui est surtout dû au fait que les deux grandes aires de civilisation précolombienne, le Mexique d'un côté et le Pérou de l'autre, étant conquises, le reste des territoires était composé de zones forestières et désertiques de peu d'intérêt pour l'Empire. Sur le plan humain, eh bien, le débat intellectuel issu de la controverse a inspiré les Nuevas Leyes de América, compilation de plus de 6000 lois en 9 livres. Le souci sincère de Bartolomé de las Casas d'épargner les Indiens les a préservés par rapport à l'Amérique du Nord anglo-saxonne notamment. Mais paradoxalement, il est à l'origine non de la naissance, mais de la généralisation de la traite des Noirs vers l'Amérique. Empêchés d'employer les Indiens comme travailleurs forcés, eh bien les Espagnols cherchent des esclaves et nous, des contacts avec des négriers africains, portugais, génois, français, qui leur vendront ensuite des millions d'esclaves sur plusieurs siècles. À l'aube du XIXe siècle, Henri Grégoire conteste catégoriquement cette implication de Las Casas dans la généralisation de la traite des Noirs. Selon lui, l'accusation menée contre Las Casas est une calomnie montée de toutes pièces à partir des écrits d'Antonio de Herrera y Tortelias. Grégoire soutient que l'accusation ne repose pas sur les sources concrètes ou vérifiables. Il y démontre également que Las Casas n'est pas soucieux de la seule situation aux Amériques, mais s'oppose de manière globale à toute forme d'impérialisme. La publication posthume de l'Historia de las Indias en 1875, soit plus de 3 siècles après la mort de Las Casas, lui donne raison. Dans le tome 3, Las Casas se repent d'avoir accepté dans ses jeunes années, pour alléger le travail des Indiens, que les colons soient autorisés à faire entrer leurs esclaves noirs dans les encomiendas américaines. Mais cette pratique existait cependant avant cet accord. Las Casas n'en est aucunement l'initiateur. À la suite de cet aveu, il condamne également cet esclavage qu'il juge aussi injuste et inhumain que celui des Indiens. Toutefois, Herrera omet de mentionner ce repentir et donne ainsi lieu à un contresens que l'historiographie n'a cessé de répéter jusqu'à nos jours. Alors, sur le plan intellectuel, Las Casas publiera en 1552 sa Brevissima Relación de la Destrucción de las Indias, c'est-à-dire la très brève relation de la destruction des Indes, dans laquelle il décrit les exactions des conquistadors. Ce livre, abondamment publié et commenté aux Pays-Bas et en Grande-Bretagne, est à l'origine de la légende noire de la colonisation espagnole et servira d'argument moral à ses puissances pour lutter contre l'Espagne, chercher à prendre sa place en Amérique et détourner l'attention des crimes et des actes de génocide lors de leur propre colonisation. Dans les pays protestants, cet ouvrage servira d'argument pour présenter l'Espagne, pays catholique et monarchique, comme rétrograde et obscurantiste. Cet argument ne tient pas. Le pouvoir monarchique espagnol et l'Église catholique romaine ont constamment édicté des lois cherchant à protéger les Indiens et à garantir leur liberté. La tenue de la controverse de Valladolid, je le répète, à la demande de Charles Quint et des autorités ecclésiastiques, en étant un très bon exemple. Alors, au contraire, les responsables politiques du Congrès nord-américain ont ouvertement provoqué et organisé la spoliation et l'élimination des populations indiennes dont ils convoitaient les territoires. Extermination planifiée des bisons, par exemple, par l'Indian Removal Act de 1830, et ainsi que la déportation massive et le parquage dans des réserves. Alors, ce que l'on peut dire, c'est que la controverse de Valladolid a donné peut-être une mauvaise image de la conquête espagnole. Il a été fait aussi en 1992 un téléfilm très très bien fait qui s'appelle La controverse de Valladolid avec des artistes comme Jean-Pierre Mariel qui joue Las Casas ou Jean-Louis Trintignant qui joue Sepúlveda et Jean Carmet qui joue le rôle du légat du pape. Et dans cette controverse, dans ce téléfilm, eh bien, on en est arrivé à penser que, à poser une question essentielle, est-ce que les Amérindiens, est-ce que les Indiens du Nouveau Monde sont des humains avec une âme ? Voilà. La question s'est posée. Est-ce que les gens du Nouveau Monde ont une âme ? Bon, il est bien évident qu'après cette controverse, les choses étaient beaucoup plus claires, mais il était important et intéressant de parler de cette controverse qui a eu lieu donc dans les années, dans le XVIe siècle. Et il était aussi intéressant pour moi de vous en parler parce que c'est quelque chose qui a eu beaucoup d'effets et qui a donné effectivement une certaine importance à l'Église catholique en Espagne ainsi qu'à la royauté espagnole. Eh bien, je vais en rester là pour souhaiter que cette information vous a intéressé. Et puis, mettez-vous en relation sur Internet avec ce fameux téléfilm qui date de 1992, donc La controverse de Valladolid, qui est extrêmement bien joué. Eh bien, chers auditeurs, je vous laisse donc sur cette belle parole et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire. Merci de votre écoute, à bientôt.